VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a promis hier une année électorale paisible en 2020, année de la prochaine présidentielle, tandis que deux opposants ont dénoncé les atteintes du régime à la démocratie dans leur message de Noël en comme un air de campagne électorale avant l'heure. Le président Ouattara, l'ex-président Henri Konan-Bédier et l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro ont lancé quasi simultanément sur les ondes et sur Internet leurs allocutions pour préparer les élections. M. Ouattara a indiqué avoir demandé au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de rencontrer les partis politiques et la société civile dès janvier avant de finaliser le travail sur le code électoral. Au Niger, le président Issoufou Mahamadou s'est adressé mardi soir à ses concitoyens dans un contexte sécuritaire très difficile pour leur pays. Notre correspondant Abdoul Razak Idrissa nous résume son discours.
Pendant une vingtaine de minutes, le président Issoufou a évoqué plusieurs sujets touchant à la vie de la nation avec en premier plan la situation sécuritaire qui s'est dégradée en 2019 avec la recrudescence d'attaques des groupes terroristes. Pour les combattre, il a promis de mobiliser en 2020 toutes les ressources stratégiques. 2020 sera également une année électorale au Niger. Issoufou a renouvelé son appel à la classe politique pour un dialogue sincère, pour des élections qui satisferont tous les acteurs.
L'année 2020 sera un tournant décisif pour notre pays. Les défis sont énormes, mais je sais que grâce à la détermination et à l'ambition de notre peuple, nous continuerons à les relever afin de progresser vers l'avènement d'un Niger émergent. Un Niger tel que j'ai souhaité qu'il soit dans mon discours d'investiture le 2 avril 2016 et tel que je souhaite qu'il soit le 2 avril 2021, au moment où, grâce à Dieu, je passerai le relais au président que vous aurez élu. Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous.
Abdoulaye Razak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Pour le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, sans les bonnes nouvelles d'une économie qui tient debout, 2019 aurait été une année noire, évoquant les attaques djihadistes, les lourdes pertes de l'armée malienne et les forces et des forces étrangères, notamment françaises et de l'ONU. Il a relevé que, à une échelle sans précédent, des localités entières de Chenou, qui furent jadis havres de paix et de tolérance, ont vu la haine tuer et brûler. Alors que le sentiment anti-français s'est accru, le président malien a souligné qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Il s'est dit convaincu que le sentiment de gratitude envers les pays alliés est celui de la majorité des Maliens. En Guinée, le président Alpha Condé, à qui l'opposition prête l'intention de briguer un troisième mandat à la fin de l'année, n'a pas modifié son projet d'organiser des législatives en février. Il compte aussi soumettre à la population un projet de réforme de la Constitution qui a pourtant fait descendre les Guinéens par dizaines ou centaines de milliers dans la rue quasiment toutes les semaines depuis près de 3 mois. Les derniers mois ont été marqués par des manifestations politico-sociales ayant engendré des pertes en vie humaine, a reconnu Alpha Condé.
Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
L'ONU et le gouvernement centrafricain ont annoncé hier le retour des forces de l'ordre au PK5, annonce qui laisse sceptique des habitants de ce quartier à majorité musulmane de Bangui, devenu une zone de non-droit et où 30 personnes ont été tuées dans des affrontements ces derniers jours. Les patrouilles des forces de sécurité intérieure, FSI, centrafricaines, avec le soutien de celles des missions de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, doivent remplacer ces groupes d'autodéfense que les commerçants musulmans avaient d'abord financés en 2013 pour se protéger des affrontements entre rebelles de la Seleka et groupe anti-Balakam qui était devenu de plus en plus violent. Au Tchad, notre correspondant André Kodmajinga revient sur les points saillants de l'année 2019 et a recueilli des réactions d'hommes politiques, d'acteurs de la société civile, de journalistes tchadiens.
Pour la plupart des citoyens tchadiens, l'année 2019 a été éprouvante pour certaines familles, accablées par la réduction drastique des salaires, primes et indemnités à cause de la crise économique et financière. Les agents de l'État n'arrivent pas à subvenir aux besoins vitaux de leur famille. L'Aljim Narcisse Mbaynadi, journaliste et analyste politique, déplore également l'instabilité politique.
On a assisté aussi à ce qu'on appelle l'instabilité gouvernementale. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, on remanie le gouvernement. Et cela n'est pas pas de nature à favoriser la bonne action. Finalement, le poste ministériel est devenu une banalité au Tchad.
Pour l'activiste Rassou Gagé, 2019 a été une année difficile pour le peuple tchadien.
On a manque d'électricité en saison pluvieuse. Nos frères sont inondés, les maisons s'écroulent sur eux comme des oiseaux. Il faut que le Tchadien arrive à envoyer son enfant à l'école. Le Tchadien n'a qu'à aller se faire soigner. Le Tchadien n'a qu'à vraiment avoir la vie comme les autres citoyens sur cette planète.
Il y a certainement une embellie financière qui augure pour la nouvelle année. C'est ce que promet l'ancien ministre et cadre du parti au pouvoir, Gamara Silek.
Il y a la relance de l'économie qui est annoncée. C'est déjà une bonne nouvelle. La loi des finances vient d'être votée et c'est l'information qui en ressort. La deuxième chose, c'est que nous allons vers plus de tranquillité dans la gestion au quotidien de notre pays. Et donc nous pouvons aborder avec beaucoup de sérénité les échéances qui ont été reportées, les élections législatives notamment.
Pour le défenseur des droits de l'homme, la particularité de l'année 2019, ce sont les affrontements intercommunautaires qui ont entraîné plusieurs centaines de morts dans la partie nord du Tchad, au centre et dans l'extrême sud. Maître Midaï Giribaï est le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.
Ces communautés s'affrontent parce qu'ils croient que l'État est faible et dès l'instant où l'État ne fait pas valoir ses pouvoirs régaliens, des individus s'affranchissent de l'autorité de l'État et on a enregistré beaucoup de morts gratuites dans le Wadaï et autres. Vous savez qu'il y a un état d'urgence qui permet donc aux forces de l'ordre d'abuser. On a eu beaucoup de cas qui montrent bien qu'il y a une situation de non-droit dans ces zones-là.
Affrontement intercommunautaire, l'ancien ministre et cadre du parti au pouvoir Gamara Silek trouve la situation inquiétante et engage la responsabilité du gouvernement.
Le conflit intercommunautaire est axé essentiellement sur la question du terroir. Et la question du terroir ne peut pas se régler par la loi d'urgence. Et il faudrait que l'État puisse s'imposer. Et nous sommes devant une situation où les communautés pensent que la terre leur appartient. Et entre ces deux, il y a un problème. Donc il va falloir que l'État puisse réguler comment cela doit se passer. Si on ne le fait pas, on n'est pas sorti de l'auberge.
Autre particularité, selon Maître Midaï Girimbaï, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, c'est aussi les atteintes aux droits fondamentaux des citoyens.
Exceptionnellement, en 2019, nous avons assisté aux arrestations des activistes, des défenseurs des droits de l'homme, de plusieurs journalistes, à la fermeture des journaux. Le plus grave que nous avons constaté en 2019, c'est qu'on est passé de comportements belliqueux à une remise en cause de la personne humaine. Les citoyens tchadiens ont commencé par avoir des comportements très criminels.
Bonne et heureuse année 2020 à tous et à chacun. André Kodumadjingar Ndiamena pour VOA Afrique.
La fille de l'ancien président angolais José Eduardo Santos, la milliardaire Isabel dos Santos, a catégoriquement nié les détournements de fonds que lui reproche la justice de son pays, dénonçant des accusations motivées politiquement. Le parquet général angolais a annoncé hier qu'un tribunal de Luanda, chargé d'une enquête pour corruption, avait ordonné le gel des comptes bancaires et des actifs de Madame dos Santos, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique dans plusieurs entreprises angolaises. Le président américain Donald Trump a menacé mardi de faire payer le prix fort à Téhéran après l'attaque de l'ambassade des États-Unis à Bagdad par des milliers de manifestants pro-Iran au cri de mort à l'Amérique. Le secrétaire à la défense Mark Esper a annoncé que quelques 750 soldats américains supplémentaires allaient être déployés immédiatement au Moyen-Orient en réponse aux événements récents en Irak. Et le président Donald Trump a annoncé mardi qu'il signerait le 15 janvier à la Maison-Blanche la phase numéro 1 de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis avant de se rendre à Pékin à une date ultérieure pour lancer la prochaine étape des discussions. L'accord de phase numéro 1 annoncé le 13 décembre après d'intenses tractations doit mettre fin au conflit commercial entre les deux premières puissances économiques de la planète qui dure depuis près de 18 mois et menace de gripper durablement la croissance mondiale. En vertu de ce compromis, les États-Unis vont réduire leurs droits de douane sur certains produits chinois en échange de l'achat par la Chine d'environ 20 milliards de dollars supplémentaires de produits américains au cours des deux prochaines années. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé, lui, la fin du moratoire sur les essais nucléaires et sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux et promis une action sidérante contre les États-Unis, lesquels ont toutefois réagi avec modération. Devant le comité central de son parti, le Parti des travailleurs, M. Kim a indiqué clairement que la Corée du Nord était prête à continuer à vivre sous un régime de sanctions internationales pour préserver sa capacité nucléaire. Bonne année à tous. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau journal. Merci pour votre fidélité en cette nouvelle année.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.